Chapitre 23. Les pendules à l'heure. Assis sur le canapé de la salle des parents, Christian et Clotilde se tiennent la main en silence. Ils n'ont pas l'air tristes. Fatigués, mais pas tristes. Pour une fois, ils ont passé un peu de temps ensemble auprès de leur fils. Cela a rendu Simon particulièrement heureux. Après les avoir embrassés, Thomas, qui vient prendre le relais, s'assoit sur une chaise en face d'eux. Il leur montre son croquis du jour. Le regard de son père est étrange. Un mélange de gratitude et de fierté d'avoir un grand-fils comme lui, à ce point présent et impliqué, mais aussi la peur, terrible, l'impuissance, destructrice. « Il est en forme aujourd'hui, » dit Clotilde. « On dirait à peine qu'il est malade. Ça lui a fait du bien que vous soyez là tous les deux. Il nous parle souvent de toi, tu sais, » ajoute-t-elle émue. « Tu comptes beaucoup pour lui. C'est très différent de nous. Vous partagez une complicité qu'on ne peut pas lui offrir. » Ils ont trouvé un donneur pour la greffe, ajoute Christian. Ça va aller assez vite. Mais il faut s'attendre à des moments difficiles. C'est un gros bouleversement pour son corps. Et la chimiothérapie sera plus forte que les autres. Il y aura des réactions, des douleurs, des symptômes nouveaux. Et puis, des risques, précise la maman à voix basse, comme pour atténuer le danger. Thomas se lève et regarde par la fenêtre en souriant. Un jour, quelqu'un dans le monde s'est dit qu'il allait s'inscrire sur la liste des donneurs de moelle. Sait-on jamais, des fois que ce soit utile? Et ce quelqu'un entre aujourd'hui dans l'histoire de Simon et de sa famille, pour remettre leur destin dans le droit chemin. La greffe offre le seul véritable espoir de guérison. Il la fallait. Et elle est désormais possible. Ils composeront avec les moments difficiles, les réactions, les douleurs, les symptômes et les risques. Et si Thomas doit être encore plus présent, il le sera. Quitte à dormir moins, à ne plus rien faire d'autre. Être présent pour son petit frère, pour Clotilde et Christian. Pour lui aussi, parce que c'est un morceau de parcours qu'il ne peut pas imaginer autrement. Un bout de route qui le fait grandir également, et réfléchir au monde. À son petit monde à lui, et au grand, tout autour. Comprendre les vrais enjeux d'une existence. Voir les choses sous un nouveau jour. Tout simplement. Simon est le meilleur professeur pour remettre les pendules à l'heure. Thomas embrasse Clotilde et Christian et part vers le fond du couloir en saluant toutes les personnes qu'il croise. Famille et personnel soignant, tout le monde se connaît à force de se côtoyer. Les enfants sont rarement là pour de courts séjours. Des liens se créent autour de la machine à café durant les semaines d'enfermement, ou parfois juste en tendant un mouchoir à un parent qui craque, parce qu'on sait qu'on y est passé. Ou qu'on y passera, à cette épreuve des larmes. Il se prépare à ses quelques heures en tenue d'hôpital. Avant d'enfiler son attirail bleu, il a pris soin d'accrocher le dessin à la vitre du sas. Simon saute sur son lit en le voyant faire. Oui, il est heureux, malgré le contexte. C'est un enfant. Il a cette force-là que les adultes n'ont plus. « Coucou !» lui lance l'enfant alors que son frère n'a pas encore fermé la porte. « Oh !» Ici aussi, il y a un coucou. Il commence à chanter dans la forêt. C'est vrai? T'en as entendu un? Plusieurs, même. Il devait se battre pour un territoire, c'était agressif. Ou pour une femelle? Oh, tu sais, les coucous ne sont pas des exemples de fidélité comme les oies sauvages. Ils ont plusieurs femelles et les femelles ont plusieurs mâles. Pas les oies? Les oies choisissent un mari ou une femme et restent fidèles jusqu'à la mort. Et si l'un des deux meurt avant, l'autre ne refera jamais sa vie. Il faut bien choisir, dit l'enfant. Papa n'aurait pas pu être une oie sauvage. Pourtant, il migre souvent au bout du monde. Je ne suis pas sûre qu'il aurait aimé être un oiseau de toute façon. Tu lui demanderas. Donc, je te disais que j'en ai entendu plusieurs. Des mâles, forcément. Les femelles, on ne les entend jamais. Ah ? Alors maman n'aurait pas pu être un coucou. Thomas éclate de rire. Comme la jeune infirmière qui branche les médicaments du soir sur les pousses seringues. Elle est petite, menue, les cheveux courts, d'un blond suédois. C'est son nez retroussé quand elle rit que remarque surtout Thomas. Sa voix est mélodieuse. Vous savez que votre petit frère nous apprend beaucoup? Il nous raconte tout ce que vous lui expliquez de la forêt. Nous allons être incollables dans l'équipe d'infirmières. Il y a tellement de choses à découvrir. D'où vous viennent toutes ces connaissances ? Je me promène beaucoup et je lis des magazines de nature, des livres. Je vous ai coupé, vous parliez du coucou. Oui, mais d'abord le bain de bouche et les dents, répond Thomas en s'adressant à Simon. Depuis le début de son hospitalisation, l'enfant est passé expert en négociation. Qui ne tenterait pas de repousser à plus tard tous ces moments désagréables qui rythment des journées contraignantes? Mais Thomas ne cède pas. Il sait qu'il sera beaucoup plus difficile d'obtenir de lui ce brossage indispensable à la fin de l'histoire, d'autant qu'il s'endort parfois avant. Fanny, l'infirmière, vérifie ensuite que le tuyau du cathéter central est bien fixé à son pyjama avec l'épingle à nourrice, pour éviter qu'il se l'arrache en se tournant dans son lit. Elle n'aurait pas besoin de le faire. À l'usage, les accompagnants gèrent ce genre de détails. Mais voilà une occupation pour prolonger l'instant dans cette chambre. Elle veut en apprendre plus sur le coucou. Cela fait aussi du bien au personnel soignant de s'extraire de la maladie et de penser à autre chose. Le service est calme. Le fait est suffisamment rare pour en profiter. Ça vous embête si je reste un peu pour vous entendre lui raconter la suite du coucou ? Tente Fanny sur le point de rougir. Pas du tout, mais vous risquez d'être déçu. Ah ? Le coucou est un cruel imposteur. La mère ne prend même pas la peine de construire un nid. Elle guette les petits oiseaux de la forêt ou des marais dans leur entreprise et, durant un moment d'absence des parents, elle ira pondre son œuf dans le nid d'un troglodyte, d'un rouge-gorge ou d'une rousserolle, au milieu des deux ou trois œufs fraîchement pondus, en prenant soin d'en emporter un pour faire comme si de rien n'était. Les oiseaux savent compter ? S'étonne la jeune femme. Disons qu'ils maîtrisent mal leur table de multiplication. Mais au même titre que nous savons lire sur les dés en un coup d'œil si c'est un 3, un 4, un 6, quand on joue au yams, ils savent combien d'œufs ils avaient en quittant le nid, et si le nombre est le même à leur retour.
Alors ils peuvent aussi jouer au yams ?
Demande Simon. Ça, c'est une autre histoire. Petit échange de regards complices entre Thomas et l'infirmière. Un minuscule moment. Une fraction de seconde qui transmet une sorte de chaleur douce à l'homme. Du réconfort, en somme. En attendant, Madame Coucou n'a toujours pas de nid. L'avantage, c'est qu'elle va renouveler l'opération entre 15 et 20 fois. C'est facile de faire des petits, dans ces conditions. Les autres font tout le travail à sa place. Mais ce n'est pas le pire. Le bébé coucou éclot 2 jours avant les autres oisillons. Et aussi frêle soit-il, tout rose, sans plumes, aveugle et pesant 3 grammes, 6 heures après sa naissance, il va caler chaque œuf du nid contre son dos, contre ses ailes, enfin les 2 espèces de moignons dont il dispose, et les pousser hors du nid. Mais pourquoi il fait ça ? S'interroge l'enfant. Parce qu'il a besoin de beaucoup de nourriture. Sa taille adulte est 3 fois plus importante que celle des parents d'adoption qui vont le nourrir. Partagé avec d'autres petits, c'est la mort assurée. Mais comment il sait qu'il doit faire ça ? S'étonne Fanny. Sa peau est tellement sensible qu'il ne supporte pas le moindre contact. Tout ce qui traîne dans le nid est immédiatement éjecté. Et si les autres petits oisillons sont nés avant lui, il en fait de même. Pas d'état d'âme, le coucou. Thomas s'amuse de la situation. C'est la première fois qu'une infirmière assiste à la scène. D'autres n'en auraient peut-être rien eu à faire, trop préoccupés par leur travail ou pas assez connectés à la nature. Mais la jeune femme s'est maintenant assise sur le tabouret qui jouxte l'arbre à perfusion. Machinalement, elle a pris la main de Simon et lui fait un petit massage doux avec son pouce, à l'intérieur du poignet, avec beaucoup de tendresse. Un point précis, suppose Thomas, intrigué et heureux de cette proximité entre elle et son petit frère. Il poursuit cependant l'histoire puisque ses 2 spectateurs attendent la suite.
Mais les parents ne disent rien ?
Reprend Simon, totalement étranger à l'idée qu'un papa et une maman puissent abandonner leur enfant. Rien du tout. Ils regardent faire. Et le comble, c'est qu'ils vont ensuite nourrir l'intrus comme si c'était leur petit, jusqu'à ce qu'il devienne énorme et qu'il s'en aille en Afrique du Sud le temps de l'hiver.
Les coucous de nos bois vont jusqu'en Afrique du Sud ?
S'étonne l'infirmière. Peu de gens le savent.
Quelle arnaque ! C'est comme si un autre enfant venait chez nous, me fichait dehors, et que maman et papa ne disaient rien et lui donnaient à manger.
Exactement. Rassure-toi, il ne ferait jamais ça. Il t'aime trop pour te laisser tomber.
Je sais. Et toi aussi.
La jeune femme s'éclipse alors en le remerciant pour ce petit cours d'ornithologie improvisé. et pour sa présence régulière auprès de l'enfant. Elle sait à quel point les accompagnants jouent un rôle dans l'état de santé des enfants malades. D'autres familles font preuve de défection, et ça lui fend le cœur, à chaque fois. Non, Simon, je ne te laisserai jamais tomber, pense Thomas en refermant la porte derrière lui, une demi-heure plus tard.